Sud Radio, il est 14h.
Parlons vrai.
Tout de suite, le Flash Info.
Bonjour à tous. La rave party qui se tenait depuis jeudi dans le Maine-et-Loire a viré au drame. Un participant est décédé. Il a succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Une enquête est ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de sa mort. Des milliers de festivaliers participent depuis jeudi à cette rave party non déclarée dans le village de Parnay. Le gouvernement fera des annonces sur les nouvelles règles de l'assurance chômage en fin de semaine. C'est ce qu'annonce Matignon. Une grande réforme du travail est attendue à l'automne. L'exécutif a déjà évoqué certaines pistes, notamment sur les conditions d'affiliation à France Travail. Actuellement, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour bénéficier du chômage et ce temps d'affiliation pourrait être allongé. Alors que la situation est tendue depuis plusieurs semaines sur l'île, Emmanuel Macron recevra des élus de Mayotte vendredi à l'Élysée. Il leur remettra 2 projets de loi qui concernent notamment la sécurité et le développement économique. La mesure la plus polémique est la suppression du droit du sol. L'île fait face à un flux migratoire important depuis les Comores. Plus de 4000 personnes évacuées des zones frontalières de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine. Évacuation suite à une offensive surprise des forces russes qui a commencé vendredi. Le ministère de la Défense russe revendique ce dimanche la prise de 4 localités supplémentaires dans la région de Kharkiv. Il avait reçu la première greffe de rein de porc génétiquement modifié. Le patient est décédé 2 mois après l'opération. Âgé de 62 ans, il avait reçu la greffe à Boston, aux États-Unis. La Suisse remporte l'édition 2024 de l'Eurovision. L'artiste non-binaire Nemo représentait le pays avec son titre The Code hier lors de la finale du concours. C'était à Malmö, en Suède. La France, avec Slimane, termine à la 4e place derrière la Croatie et l'Ukraine. Le foot, 7 rencontres à suivre ce soir à 21h, dont la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot parisien. Le PSG reçoit Toulouse. En rugby, le choc entre le 1er et le 2e de Top 14. Le Stade toulousain reçoit le Stade français à 21h05. Très bon après-midi à tous.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Bonjour à tous et à tous. Dans un instant, vous allez retrouver Gérard Collard en direct, évidemment. Mais j'avais envie de vous faire réécouter l'hommage que nous avons rendu avec Gérard Collard cette semaine à Bernard Pivot. Bernard Pivot qui nous a quittés cette semaine, comme vous l'avez certainement entendu. Il a fait tellement pour les livres et pour la littérature. C'était dans l'émission Média mardi dernier.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Gérard Collard, notre libraire préféré. Bonjour Gérard.
Bonjour
vous
Valérie.
Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la griffe noire. Comment ne pas vous faire réagir au décès de Bernard Pivot? Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Bernard Pivot?
C'est le premier qui m'a fait aimer les livres, qui m'a donné envie d'être libraire quelque part, parce que jusque-là, les émissions littéraires, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas faites pour moi, et il a entrebâillé la littérature à un autre monde plus populaire, avec des mots simples que je comprenais, et puis il y avait de la gourmandise dans ce qu'il disait, et bon, c'est toute une époque, quoi. Ça, pour moi, ça a été quelqu'un de très important.
Oui, gourmandise, c'était son mot préféré, paraît-il.
Oui,
donc,
c'est vrai, ça se ressent, et puis gourmandise, c'était allié aussi à la nourriture, il était gourmand de la vie, hein. C'est un peu des caricatures, ça, des clichés, mais c'est exactement ça, on ressentait ça dans cet homme, il aimait vivre, et on sentait que le livre faisait partie de son amour de la vie, quoi.
Qu'est-ce que ça avait de particulier, Apostrophe, comme émission? En quoi c'était révolutionnaire à l'époque?
Parce que déjà, on comprenait ce qu'il disait. Il remettait à niveau les gens qui parlaient avec lui, les auteurs qui partaient des fois dans des phrases pas possibles, et il les remettait à niveau. C'était un très bon intervieweur, très bon vulgarisateur. Puis il faut dire aussi que c'était une époque où 5 millions de personnes regardaient cette émission parce qu'il n'y avait que 3 chaînes, quoi. Donc ça, c'était une époque très particulière.
Ouais. Vous l'aviez rencontré?
Oui, alors je veux dire que quand quelqu'un meurt, il faut toujours dire du...
Vous avez un selfie avec lui?
Oui, j'ai une anecdote parce que j'étais pas fan de Marguerite Duras, il était venu dans ma librairie et sur une étiquette j'avais mis les écrivains boivent, les lecteurs trinquent, et là ça l'avait offusqué, il m'avait dit mais vous savez monsieur, elle vend énormément de livres dans le monde, et je lui avais dit mais Barbara Cartland encore plus, donc voilà, ça avait été un peu glacé. menacer, mais ça retire rien à l'admiration que j'avais pour et l'importance pour, qu'il a eue pour le livre. Quoi.
Pour le livre, oui, absolument.
Est-ce qu'il y avait une influence à l'époque, et est-ce que ça existe toujours? Est-ce que la télévision... Vous est-ce m'entendez qu'il y avait... Est-ce oui. qu'il y a une influence? Est-ce que la télévision fait vendre des livres ou pas? Est-ce que passer chez Pivot...
Ça n'a rien à voir, c'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir, parce que déjà c'était en prime time, en plus il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il avait un côté star, donc tous les gens regardaient ça le soir, hein, c'était vraiment le rendez-vous. C'était
mais,
vraiment
mais est-ce que ça faisait vendre des livres, une émission de télé à l'époque, maintenant, est-ce que ça faisait vendre et est-ce que maintenant ça...
Oui. Ah oui, oui, c'était, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
Moi, j'ai le souvenir d'une émission avec le linguiste Claude Agege. Il s'avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que Claude Agege est un type, il est toujours brillant, toujours vivant, brillantissime, drôle, extrêmement pertinent. Il avait fait un show incroyable à Apostrophe. Tout le monde s'était précipité pour acheter ses livres qui étaient totalement illisibles. Et ça avait été un best-seller incroyable. Donc oui,
moi,
ça avait fait...
J'avais toujours rêvé d'être une table de nuit pour voir la tête des gens au bout de combien de pages ils abandonnaient. Il y en avait un autre comme ça qui était Montaillou Village Occitan. Alors oui. Ça, c'était absolument extraordinaire. Et les gens revenaient un peu bêta en disant « je crois que je ne suis pas à la hauteur ». Mais en fait, ce n'était pas des livres qui étaient faits pour eux, c'était des livres d'universitaires. C'est un peu le risque, on en est tous là, c'est un peu le risque quand on fait le show. Quoi.
Oui, quand il y a le show.
Ouais, mais en général, ils se trompaient très peu. C'était un raz-de-marée. Maintenant, on ne peut plus comparer ça. Il y a 30 chaînes, les émissions littéraires sont en, je ne sais pas... Et puis en plus, vous savez, Pivot, c'est comme De Gaulle. Tout le monde se dit... C'est-à-dire que tout le monde dit, Pivot, mais là, Pivot, il a un peu supprimé le quant à soi, et là, maintenant, on revient dans les émissions littéraires, on revient à ce quant à soi très parisien, il faudrait qu'on revienne quand même, on réécoute ces émissions et qu'on se dise, faut peut-être rechanger encore la façon dont on parle des livres.
Ouais, avec des choses plus populaire et je voyais un extrait hier où il y avait Cabu qui était invité. Gilles nous a passé tout à l'heure dans le zapping un extrait où il y avait Serge Gainsbourg. Enfin, il y avait aussi un mélange. On ne se recevait pas entre soi, entre intellectuels, où on s'écoutait parler. Il y avait des débats en fait aussi. Il y avait beaucoup de débats d'idées sur ces plateaux.
Les gens n'étaient pas d'accord, mais ils ne s'insultaient pas forcément pour ça, quoi. Donc, on acceptait la contradiction de l'autre. Donc, c'était... Puis bon, il faut dire aussi, on va être honnête, la qualité des auteurs qu'ils recevaient n'est pas forcément peut-être la qualité des auteurs qu'on reçoit maintenant.
Non, mais c'est
un peu méchant.
Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait aussi que... alors, je ne l'ai pas passé en interview, mais... on voyait bien aussi que c'était des gens un peu torturés, les écrivains. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens d'Apostrophe aussi, c'était de voir le visage de ceux qui écrivent et qui pour qui c'est une vraie difficulté parfois d'écrire ou compliqué. Bon, évidemment, je n'irai pas sur notre ami alcoolique aussi qui a fonctionné, mais ça faisait partie aussi des écrivains. C'est compliqué d'être écrivain, en fait.
Oui, c'est très compliqué. Mais moi, ce que je retiens de Pivot aussi, c'est qu'il nous a fait découvrir des gens qui n'étaient pas forcément connus. C'est-à-dire que, contrairement à maintenant, on va vraiment dans la facilité, où il y a beaucoup de buzz, de médias, dans la communication. Il nous a fait découvrir... Moi, j'ai découvert des gens, là, ça me vient pas à l'idée, mais que j'aurais jamais lu s'ils ne les avaient pas invités. C'est surtout de la manière dont ils les faisaient parler. C'est-à-dire qu'on se disait, ces gens, ils sont un peu comme nous, on est capable de les comprendre, alors que maintenant, parfois, on se dit c'est pas pour nous, quoi. Donc ça, c'est un vulgarisateur, hein. C'est-à-dire c'était un passeur d'émotions avec des mots simples, et ça, c'est vraiment du génie, quoi.
Oui.
Et puis on peut parler également de l'orthographe et la dictée. Je sais pour vous, Gérard, on se fréquente un peu, enfin on se connaît un petit peu, et l'orthographe est très important pour vous. On l'a perdu, ça, avec les réseaux sociaux.
Enfin, oui, moi aussi.
Oui, Gérard aussi. Hein.
Moi aussi.
Gérard. Alors... vous le connaissez mal, oui, Gérard, hein, je pense.
Il a fait plein de fautes.
Il fait pas mal de fautes, oui.
Mais comme vous êtes.
C'est pour ça qu'il rigole.
Non, mais... Oui, mais je pense qu'aussi, c'est le combat, mais le combat, il est aussi... alors là, c'est autre chose, c'est dans l'éducation, c'est dans le système scolaire et tout. Je veux dire que on a été un peu victime. Moi, j'ai commencé à être victime d'un système d'une façon d'apprendre l'orthographe et qui s'est amplifié maintenant, et on arrive à des catastrophes. Mais les enfants sont pas forcément responsables de ça. Puis il y a aussi que moins on lit, moins l'orthographe, elle suit. Hein. Ça, c'est tout un truc. Mais ouais. Ça, c'est un autre problème.
Ouais, tout le monde lui rend hommage ce matin, encore une fois, à juste raison. Néanmoins, je ne pense pas que si son émission existait aujourd'hui, il ferait autant d'audience. C'est-à-dire que le livre a quand même perdu beaucoup, beaucoup d'attrait.
Oui, mais je suis pas. Enfin, ça, oui, ça a beaucoup d'attrait, mais c'est parce que les médias ont donné de moins en moins de place aux livres, et puis les gens qui en parlent des livres dans les médias souvent sont des gens qui sont. On en revient à ça. On reçoit ce que Pivot n'était pas ça. Ouais. C'est-à-dire que Pivot, on avait l'impression qu'on pouvait le croiser au café du coin, au resto et tout. Et ceux qui parlent des livres, enfin pas tous, hein, mais souvent, on a l'impression que bon, et soit ils parlent pour notre écrivain qui sort de l'académie, ou que bon, on va les croiser la Closerie des Lilas, quoi, mais pas chez mon café, dans mon café à côté de chez moi, quoi.
Oui, on voit ça. On voit effectivement parfois cet entre-soi qui revient et qui.
Aujourd'hui, tout le monde écrit aussi, hein.
Johnny a écrit, tout le monde écrit.
Mais il faut dire qu'on manque de psychanalystes, donc comme les gens ne peuvent plus trouver de psychanalystes, ils écrivent, et ça ne se vend pas, mais bon, ils ont écrit un livre, donc ils sont contents. Mais un auteur, c'est pas quelqu'un qui a forcément souffert, hein. C'est quelqu'un qui sait écrire, qui a des mots, qui a un talent, c'est quelque chose de très particulier. Alors maintenant, tout le monde écrit, et comme tout le monde, on est dans l'égalité, on doit dire que tout le monde a le même talent, ce qui est complètement faux.
Oui, et puis une sorte de moutonisme,
de conformisme.
Oui. Quand je dis moutonisme, c'est le comportement moutonnier où tout le monde parle des mêmes livres, se renvoie à l'ascenseur et la littérature y perd un peu.
Ouais, je pense, mais bon, à l'époque, faut pas non plus rêver, hein. Il y avait aussi
la
nostalgie, parce que dans, il y avait pas mal de neuneux et de daubes, pas possible, hein. Ouais. Je peux pas donner de nom, mais j'en connais encore. voilà. Je veux dire, ça, c'est une race qui se perpétue assez facilement.
Ouais. À noter ce soir que France 2 change ses programmes. À 22h40, vous pourrez suivre un documentaire qui s'appelle Les Vendredis d'Apostrophe, qui a été réalisé par Pierre Assouline, qui sera donc diffusé ce soir à 22h40. Je vous plais en speakerine ?
Oui, vous êtes très bien.
À 22h40 sur France 2. Bon, rappelez-moi Chrysanthème, Gérard Collard.
K-R-I.
Oh, vous êtes méchant, Gérard.
Je suis pas méchante.
Et encore, c'est quand il est en forme.
C'est encore quand il est en forme. Mais il est débordé par l'enthousiasme. Moi, j'en profite pour rendre hommage à Gérard.
Et à tous les libraires aussi.
Oui, à tous les libraires. Mais Gérard, non pas tous les libraires. Gérard a une particularité, c'est qu'il est gourmand, qu'il aime les livres, qu'il n'a pas de barrière et qu'il peut dire du bien d'un Marc Lévy. Enfin, ça, non, peut-être pas. Mais
d'un Guillaume Musso,
comme d'un livre plus exigeant. Et je me félicite qu'à Parole d'Expert, on ait réussi, quand on était sur France 3, à donner envie de lire à des jeunes gens qui n'avaient jamais pris de livre dans leurs mains. Et vous avez fait ça, Gérard, depuis maintenant. Depuis combien de temps qu'on se connaît? Près de 30 ans. Donc.
On vous retrouve dimanche à 14h sur Sud Radio.
Mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout aller chez votre libraire, parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Et Pivot, il faisait ça pour les libraires, il faisait ça, pas ça pour les grandes chaînes. Ouais. Donc, allez chez votre libraire, surtout en ce moment, ils ont besoin de vous. Absolument. Ils sont gourmands aussi, ils ont plein de choses différentes à vous proposer.
Vous avez été le précurseur des petites affichettes sur les livres pour donner votre avis. Maintenant, on le retrouve dans plein de librairies, mais c'est vous le premier. Je encourage tout le monde à aller à la Griffe Noire pour voir votre librairie.
Allez chez votre libraire, près de chez vous. Surtout.
Et Gérard, alors nous dit Stéphane, donne autant envie de lire que Pivot, c'est l'héritage. Bah voilà, moi je dis que vous êtes l'héritier de Bernard Pivot. Non.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Et on se retrouve tout de suite avec Gérard Collard pour de nouveaux conseils de lecture. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop haut pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris.
Sud Radio, parlons vrai.
Chez Sécuritest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Sécuritest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur sécuritest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Sud Radio Nîmes
104.7.
Sud Radio.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis pis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis pis. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis pis. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AGP, vous êtes assuré et associé.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. Si accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Tout savoir sur le bien-être au féminin avec Manae. Dans un instant, nous parlerons d'une formule innovante et complète pour la jeunesse de la peau de toutes les femmes.
Sans-cook. Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font chut.
Mais pas trop quand même.
À bruit silencieux quoi.
Voilà.
Avec Sokouk, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. Sokouk, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu Sokouk meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Alors, Gérard, vous êtes libraire. Alors, à Saint-Maur, c'est la griffe noire.
Par moments, je me demande si je ne fais pas pipi dans un violon quand je viens ici, parce que ça ne servira à rien. J'ai l'impression d'être, voilà, de ne pas exister. Je vous avais dit la semaine dernière que le bouquin que nous avions adoré de Benda Lutroy, qui s'appelle Le Courage des Lâches aux éditions Trace, ça allait être très compliqué à avoir.
Mais c'est un peu comme si vous mettez un gâteau dans une vitrine et qu'on vous dit, vous ne pouvez, pouvez pas l'avoir. Donc les gens ont râlé en disant, on ne peut pas l'avoir.
Ils m'ont dit, mais moi déjà, je ne suis pas le distributeur, je ne suis pas, c'est pas moi qui distribue les livres, donc voilà. Il y a certains libraires qui les ont encore, hein, qui en ont eu une petite quantité, mais c'est très compliqué. C'est pour dire, moi j'ai commandé les miens il y a 3 semaines, je ne les ai toujours pas. Hein, donc, oui, je sais. Donc, soyez patient, pitié pour lui parce que c'est un des plus beaux romans de l'année. Vous allez, si vous passez à côté de ça, voilà, mettez-le de côté chez votre libraire, commandez et tout. Et si vous cherchez un livre pour la fête des pères ou la fête des mères, c'est idéal. Si vous voulez chercher un livre pour les vacances, c'est parfait. C'est vraiment une pure merveille.
Rapidement
l'histoire. Il y a beaucoup de choses. L'histoire de la bande à bouboule, de ces 4 jeunes, 5 jeunes qui sont dans le nord de la France. Avec voilà, ils vont se retrouver pendant la guerre dans les Alpes, au Vercors. C'est vraiment une fresque très passionnante avec le style. J'adore le style de Benda Lutroy. Et c'est comme on aime. Moi, j'aime bien. Vous savez, ça me fait penser. Alors, bon, c'est assez générationnel, mais Maurice Clavel, c'était. Ouais. Vous savez, Clavel, il y avait toute ces séries. C'est exactement ça. On est dedans. C'est. Voilà. Donc, allez-y, ne m'engueulez pas. Je ne suis
donc
pour rien.
Donc, vous commandez chez votre libraire.
Voilà. Et vous attendez.
Bon.
Et n'allez pas ailleurs, parce que des fois, il y en a d'autres qui. Enfin, il y a des grands trucs qui l'ont, mais c'est parce qu'ils ont squeezé le.
Les libraires.
Voilà. Donc, les libraires ont besoin de vous.
Qu'est-ce que vous avez lu cette semaine?
Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu une chose qui m'a fait un plaisir immense. Et vous l'avez en même temps que moi, d'ailleurs. Vous l'avez.
On commence à avoir les mêmes. Ça arrive souvent qu'on arrive avec les mêmes livres. On a la chance de recevoir beaucoup de livres.
Ouais.
Moi, je suis désespérée parce qu'il y en a tellement des très bons et des très mauvais aussi.
Oui.
C'est vrai que je dois dire, quand je reçois un livre de chez Arléa,
on y fait attention
parce qu'on est à peu près sûr à 99,9% que ce sera quelque chose de hors norme, ouais, d'exceptionnel et avec un grand plaisir de lecture. On en a reçu deux, on vous en parlera de l'autre la semaine prochaine. Mais le dernier thé de Maître Soho, S-O-H-O, accent circonflexe, c'est là aussi un petit bijou.
Ah, c'est comme je disais, ouais, c'est, en fait, ce livre, il redonne de la beauté au monde, c'est pas mal. Hein, ouais. C'est comme, voilà, ils pourront le mettre, ça, ils redonnent de la beauté.
Oui, voilà,
c'est en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, on est au milieu du siècle au Japon. Ouais, deuxième partie du 19e siècle au Japon. Et elle est l'héritière d'une entreprise. Son père, il fait le meilleur saké du monde, oui, du Japon, qui est adoré par l'empereur. Et donc, logiquement, il se dit, elle va devenir l'héritière de cet empire. Ce qu'elle veut être, c'est samouraï.
Ouais.
C'est quand même une aberration, parce que samouraï, c'est que des hommes.
Hein, on est au 19e siècle.
Donc, elle tombe sur un père qui est un peu déboussolé, mais qui est quand même intelligent. Donc, il pense que ça va se passer comme ça. Et non, elle va partir. Alors, il va lui arriver plein d'aventures.
Parce qu'elle cherche le maître samouraï.
Voilà, qui est la quintessence du samouraï. Et là, elle arrive devant une demeure. Elle voit un vieux monsieur qui est là, il la regarde, il n'y fait pas attention, ouais, elle va rester mais des jours et des jours, elle va tomber dans les pommes, donc là il va y faire attention, et là ils vont parler, et là il y a moi le thé, par exemple,
on n'est pas dans la même catégorie.
Moi le thé c'est le thé anglais du Yorkshire, c'est-à-dire bien solide avec du lait, et la cuillère elle reste de, voilà, qui, ouais, c'est pas...
Alors que moi là, je ne bois que du thé vert, du thé japonais,
c'est cela. nous n'avons pas les mêmes valeurs,
effectivement on est au cœur de la dégustation du thé.
Voilà, et alors c'est une sorte de philosophie de la vie. Alors quand je dis ça, ne vous tirez pas. Hein, c'est vraiment amené avec beaucoup d'intelligence, de finesse. Et cet homme, il a abandonné. Vous allez découvrir pourquoi. Il n'est plus samouraï. Il a déjà un certain âge. Hein, et lui, il met en corrélation le samouraï et la cérémonie du thé. Et vous allez voir, il y a l'extérieur et l'intérieur.
Absolument.
C'est-à-dire, c'est extrêmement subtil.
Assez
subtil, mais. C'est ça l'intelligence de cet homme, c'est-à-dire que il arrive à rendre lisible quelque chose qui est apparemment très subtil, et là vous comprenez tout, c'est merveilleusement écrit, c'est plein d'humour. Alors moi j'adore cet homme, ouais. Alors on est en plein dans la subtilité, hein, le thé et tout, et cet homme, qu'est-ce qu'il fait tous les matins? Il est tout nu, il va faire pipi devant son gravier et il pète, et après il va commencer la journée. Ça c'est pour vous dire que il y a un petit recul quand même de l'auteur, c'est merveilleux, franchement.
Et il y a à la fois la tradition, toute la tradition du Japon, avec effectivement cette famille, cette dynastie, avec l'histoire du samouraï, la tradition du thé, et puis la modernité,
qui annonce une certaine modernité. Il va se mettre en colère, vous allez découvrir. Et puis alors, il est très drôle cet homme, parce que comme elle est femme, elle se cache, hein, elle va se mettre des bandelettes autour des seins et tout, elle va jamais retirer son kimono. Alors lui c'est très marrant, parce que elle est comme ça, puis lui il est tout nu comme s'il se passait rien. Et il y a un moment, il va découvrir que, mais en fait il le savait apparemment depuis le début. C'est plein d'humour, de finesse.
Et de la poésie, en fait. Moi, je ne suis pas sensible à la poésie. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du conte et de l'humour.
C'est une des plus belles choses. Alors, on lit beaucoup de belles choses. Hein, mais en plus, ça met antinomique. C'est-à-dire le thé vert, ces choses-là, les samouraïs, mon truc.
Ouais.
Et alors là, vous pénétrez en plein dans l'âme du Japon. C'est subtil, délicat, c'est drôle, c'est tendre, c'est philosophiquement intelligent.
Et puis vous apprendrez des choses sur le Japon, sur ses traditions.
Et alors franchement, ça fait partie de ces trucs, c'est que je voulais pas le quitter. Vous voyez, je l'ai tous les soirs et je me dis non. Bah, et c'est merveilleux, franchement.
Et puis c'est une déclaration d'amour au thé aussi, et moi je voudrais monter le front de libération des sachets de thé dans les restaurants, parce que quand vous aimez le thé,
c'est pareil pour le café, un bon café, mais c'est étonnant, parce que moi j'imagine pas ça, c'est qu'il lui met, c'est qu'un exercice, lui met 30 thés différents dans des petites coupes, et elle doit reconnaître les 30 thés. Alors fuyez pas si vous aimez, franchement c'était une des plus belles choses que j'ai lues cette année.
Le dernier thé de Maître Soho, c'est aux éditions Arléa, Cyril Gély, G-E-L-Y.
J'avais jamais rien lu de lui. C'est...
Moi non plus, j'ai trouvé absolument remarquable. Merci Elisabeth Badinter, c'est un livre de Sophie Sacknin aux éditions de l'Observatoire.
Ah, mais c'est drôle.
Pourquoi ?
Parce que j'avais après j'avais mis sur encore un effort.
On va parler d'Elisabeth Badinter. Sophie Sagnin, elle voulait rendre hommage à Elisabeth Badinter. Mmh. Alors elle est allée la voir. Elisabeth Badinter lui dit mais ça m'intéresse pas un livre sur moi. Enfin elle était contre l'idée d'un livre sur elle. Et Sophie Sagnin se disait qu'en ce moment le féminisme déraille un peu, qu'il y a des choses, il y a des chapelles, des choses très compliquées. Et donc elle a voulu dans ce livre, elle a entendu beaucoup de femmes, beaucoup des hommes aussi, Philippe Val, Philippe Labraud, mais il y a aussi Caroline Fourest, des journalistes, Abnous Chalmani, tous lui ont raconté ce qu'Elisabeth Badinter avait apporté dans leur vie et en quoi sa défense de la laïcité, de l'éducation, du féminisme avait changé leur vie. Moi, j'ai appris énormément de choses. C'est incroyable, on pensait savoir plein de choses, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à travers des témoignages comment elle a réussi à comment elle rend hommage à cette femme et comment cette femme, Elisabeth Badinter, a quand même imprimé énormément dans la société.
C'est vraiment, une référence, c'est un phare. Moi, ce qui me fait peur, c'est que de la qualité de ces femmes, c'est-à-dire qu'elle allie le côté de la philosophie, de la culture, c'est-à-dire qu'elle est hyper brillante, mais c'est une vulgarisatrice aussi incroyable. Absolument. Et puis, il y a ce côté féminin, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle le côté terre-à-terre du quotidien, de l'écoute de l'autre et tout. Puis, je vais me faire plein d'ennemis, mais il y a quand même une médiocrité ambiante en ce moment. Et au niveau, comme vous dites, des chapelles, là, elle remet tout en hauteur. Et vous êtes un homme, il faut lire ça, quoi.
C'est vraiment parce qu'elle s'est replongée dans l'œuvre d'Elisabeth Badinter. Elle s'est replongée dans ses combats et on voit sa détermination et son honnêteté, en fait. C'est un livre important parce que vous voyez comment cet intellectuel a été assez, précurseur. Elle est à la fois philosophe, historienne, elle adore le 18e siècle, et puis rien que le début, quand elle raconte sa rencontre avec Elisabeth Badinter, le fameux petit escalier, où elle est très intimidée, Sophie Sagnin. Franchement, lisez ce livre, vous saurez qui est Elisabeth Badinter, si ça vous fait peur de lire ces livres, mais vous allez nous en parler. Vous découvrirez qui est cette femme, universalisme, laïcité, féminisme, tout ce que nous lui devons, et c'est vrai que nous lui devons beaucoup,
Et moi, j'aime beaucoup cette femme parce que c'est une des rares maintenant féministes qui parle des femmes en Iran, dont on ne parle pas. Il y a plein de combats de femmes dans le monde entier et dont le nouveau féminisme ne parle pas. Alors, bon, c'est pas à moi d'expliquer comprendrez là-dedans. Mais elle a un courage, elle n'est pas dans la mode.
Elle n'est pas dans la mode. Et puis, elle a eu, par exemple, il y a tout un passage sur la parité. Elle était contre la parité. Donc, elle n'est pas non plus monolithique. Non. Elle a des subtilités. Elle a une colonne vertébrale extrêmement claire. Une vision des choses. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai appris beaucoup de choses sur Elisabeth Badinter. Merci Elisabeth Badinter. Universalisme, laïcité, féminisme, tout ce que nous lui devons, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et l'auteur s'appelle Sophie Sagnin.
Alors moi, on l'a pas fait exprès, mais j'ai lu Elisabeth Badinter, Messieurs, encore un effort chez Flammarion. Oui. Et je trouve que tous les hommes devraient lire ce bouquin. Et c'est un livre absolument magnifique sur les... Alors, il y a un problème en France, comme dans le monde occidental en général, c'est la baisse de natalité. Mmh. Et donc, dans ce livre, elle analyse le pourquoi de la baisse de natalité. Alors, il y a plein de raisons financières et tout, mais ce qu'elle dit aussi, c'est-à-dire c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, mais au quotidien, c'est-à-dire que les femmes, dès qu'elles ont un bébé, leur salaire baisse parce que, et puis les entreprises n'ont pas envie d'avoir des femmes qui sont enceintes. Elle fait toute une analyse globale de ces
choses. De la société.
De la société. Elle explique aussi que c'est une société où il y a le moi d'abord, c'est-à-dire que puis les femmes ont peur, elles ont peur de parce qu'elles sont pas
plus
tellement pliées par
les
hommes.
Moi, dans ma génération, il y avait pas de femmes qui disaient je veux pas d'enfants.
Non.
Soit elles le pensaient, elles ne le disaient pas, disaient pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est assumé chez une
absolument,
certaine
ça, ce
partie
vraiment,
des jeunes femmes.
Ce qui est vraiment, il y a pas de honte, il y a pas de pas aimer avoir de pas vouloir d'enfants. Mm. Mais là, c'est vraiment. On revient comme dans ce que j'aime chez cette femme, c'est-à-dire qu'elle a le côté colonne vertébrale, structurée, culturelle, intellectuelle et tout, mais qu'elle rejette ça dans le quotidien. C'est-à-dire que vraiment, c'est une... Allez-y, c'est deux livres qui se complètent absolument. Il faut tout lire, hein, tout est en poche de Badinter.
Oui, lisez, parce que c'est... Et puis, ses biographies sont formidables aussi.
Ah, oui, ouais.
C'est à chaque fois, elle trouve des personnages de femmes, justement...
Incroyable.
...qu'on ne connaît pas forcément. Vous pouvez y aller. Mais là, effectivement, c'est un essai, messieurs, encore un effort qui fait cet état des lieux.
Tous les garçons, allez-y, hein, parce que franchement...
Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Mission décarbonation avec EDF.
Comment les entreprises s'inscrivent dans une démarche de décarbonation? C'est votre nouveau rendez-vous avec EDF. Georgina Grenon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice excellence environnementale pour Paris 2024. Alors, des Jeux Olympiques et Paralympiques plus responsables, c'est possible?
Oui, c'est une ambition majeure de Paris 2024.
D'accord. Alors expliquez-nous comment EDF vous y aide.
Eh bien, EDF fournit à Paris 2024 une électricité 100% renouvelable et 100% tracée. L'innovation, c'est qu'EDF met à disposition 6 parcs éoliens et 2 parcs photovoltaïques pour alimenter tous les sites des Jeux.
Impressionnant. Et vous m'avez dit que c'était une première?
Oui, c'est la première fois qu'un événement de cette ampleur sert à alimenter l'électricité 100% renouvelable. Avec Paris 2024, ça devient possible. C'est aussi ça, l'héritage des Jeux.
Merci Georgina, et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.
C'était Mission Décarbonation avec EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur edf.fr/Paris2024.
Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup. Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. C'est aujourd'hui une émission spéciale Afrique et numérique où vous allez découvrir comment l'Afrique a de très belles histoires à nous partager en termes d'innovation. En effet, on vous fera voyager pour découvrir les innovations les plus futuristes venant de ce continent. Vous rentrerez dans l'univers des festivals mêlant tradition africaine et modernité du métaverse. Et enfin, on vous expliquera comment les jeunes femmes se forment dans les villages africains les plus reculés afin d'acquérir une autonomie professionnelle. Le numérique pour tous spécial Afrique et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le président de Orange Moyen-Orient et Afrique, Orange l'opérateur télécom que nous connaissons tous, Jérôme Hennick. Bonjour.
Bonjour Vanessa.
J'ai bien prononcé votre nom?
C'est ça, mais je suis directeur général, pas président.
Très bien, c'est important de le préciser. Avant de commencer, comment se porte le marché de l'innovation en Afrique? Une question bien générale, mais déjà pour faire cette transition et voyager.
Alors globalement, il se porte bien et la scène tech africaine est bouillonnante, comme vous le disiez, avec plein d'idées et plein d'innovations. Surtout, c'est ça qu'il faut mettre en avant, des entrepreneurs de qualité. Et puis l'investissement se tourne maintenant vers l'Afrique, même si en 2023, il a reculé. Hein, c'est 3,5 milliards de dollars investis par les fonds dans les startups en Afrique. C'est en baisse de 46%. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose aux États-Unis, mais si on prend une tendance plus longue, sur 10 ans, cet investissement c'est 20 milliards de dollars et les deux tiers au cours des 3 dernières années. Donc la scène tech africaine est pleine de vie et attire maintenant les financements, ce qui est nouveau.
Alors concrètement, les grands pays qui sont des pays innovants, on va dire, les plus innovants?
Alors ceux qui ont le plus de start-up et que ceux qui attirent le plus les financements, c'est évidemment les grandes économies africaines. On va retrouver l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, mais on voit des pays francophones maintenant tirer leur épingle du jeu. Le Maroc arrive en cinquième position. On a la Tunisie, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui sont dans le top 10 maintenant. Des investisseurs, des start-up ciblées par les investisseurs en Afrique.
Jérôme, pour des raisons économiques, culturelles et surtout géographiques, quels sont les véritables enjeux de ces start-up en Afrique, si on peut les classer ?
Alors, premier enjeu, c'est d'accéder aux infrastructures numériques. Hein. Il faut avoir évidemment un accès à Internet. Ce n'est pas le cas partout en Afrique subsaharienne. À peu près la moitié de la population n'a pas encore d'accès à haut débit. Donc, ça, c'est notre rôle d'opérateur, hein, de couvrir, y compris les zones les plus reculées. Mais ils ont aussi une grande chance parce que le saut technologique avec l'arrivée des smartphones massivement en Afrique et puis du paiement mobile aussi leur permet finalement d'avoir un écosystème favorable à développer des services digitaux qui vont venir s'appuyer sur la connectivité et sur le paiement. Mais leur premier enjeu, c'est l'accès aux infrastructures numériques. Le deuxième, c'est probablement l'accompagnement et la formation. Avoir, et je crois que vous recevez Seyna qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la formation digitale, c'est d'accéder aux bonnes compétences, en particulier en matière de codage. Et puis le troisième, c'est le financement. Et ce financement, même s'il explose maintenant en Afrique, s'il croît très fortement, notamment en Afrique francophone, hein, c'est 15% de croissance des financements en Afrique francophone entre 2022 et 2023, ça reste 1% du total des financements des start-up mondiales. Donc il y a encore beaucoup à faire.
Mais Jérôme, un entrepreneur africain, comment pense-t-il son développement ? Est-ce qu'il pense à l'échelle de son pays, à l'échelle du continent, au niveau international ? Quelle est la culture ?
En général, et les plus celles qui rencontrent le plus de succès, on en a mis quelques-unes en avant dans l'ouvrage qu'on vient de publier pour présenter 7 start-up qui sont des rôles modèles dans ce domaine.
African Digital Champion, je tiens à préciser le titre si vous voulez vous le procurer.
En fait, elles s'attaquent à des besoins du quotidien. Ce qu'elles ont tout en commun, c'est de bien connaître et bien comprendre leur marché, et notamment les besoins des populations des entreprises africaines auxquelles elles doivent répondre. Et c'est d'abord leur marché domestique qui les intéresse. Mais ensuite, elles vont chercher à s'exporter. Et l'intérêt d'un continent d'1,3 milliard d'habitants, c'est que ça fait un marché à l'échelle continentale qui est extrêmement intéressant pour eux. La plupart d'entre elles s'exportent assez vite au-delà de leurs frontières.
Alors faites-nous rêver, partagez-nous quelques innovations vraiment spectaculaires qui sont une bonne leçon, on va dire, pour notre continent européen.
Il y en a beaucoup. Celles qui attirent le plus de financement en ce moment, ce qu'on appelle les fintechs, parce que le paiement mobile, les transferts d'argent sur mobile, c'est déjà de l'histoire ancienne en Afrique. Hein, ça fait 15 ans que ça existe. Pour Orange Money, c'est 30 millions d'utilisateurs tous les jours qui utilisent leur porte-monnaie mobile. Et donc, autour de ces services financiers mobiles, on a tout un tas de start-up comme Julia qui s'est lancée en Côte d'Ivoire et qui propose des services financiers mobiles pour les petites entreprises. Et quand je disais qu'elles adressent surtout les besoins du quotidien, elles s'attaquent à des problèmes environnementaux clés comme la sécheresse, hein, le stress hydrique comme on appelle ça. Vous prenez une start-up tunisienne comme Cumulus qui a décidé de transformer l'humidité de l'air en eau potable avec une machine qui fournit 30 litres d'eau potable par jour pour donner accès, y compris à des villages reculés, à de l'eau potable. C'est formidable. D'autres comme Dabadoc au Maroc s'attaquent à la question de la santé, de la e-santé, c'est-à-dire permettre à des populations de pouvoir faire de la téléconsultation même quand elles sont dans des zones rurales, en ayant accès à des spécialistes qui sont en ville. Le domaine de la formation et notamment de la formation au numérique, qui est un enjeu clé sur le continent. Donc elles relèvent toutes des challenges qui semblent des challenges énormes, qui répondent aux principaux enjeux du continent. On pourrait parler de l'agriculture aussi, hein. Vous prenez une start-up comme Brasthorn au Botswana, elle permet aux agriculteurs de savoir quand est-ce que c'est le bon moment de semer, de moissonner, sur quel marché vendre leurs produits au meilleur prix. Et donc elles fournissent des services qui, pour chacun des tissus économiques du pays, vont rendre des services incommensurables.
Jérôme, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ici en Europe actuellement. Est-ce qu'il y a cette même frénésie en Afrique ou alors l'approche est différente ?
Non, ça, il y a à la fois le même impact sur l'ensemble des services, sur l'ensemble des domaines chaîne économique des pays. Et puis, il y a des start-up qui se lancent dans l'IA. Instadip, par exemple, en Tunisie, est une des start-up qui a fait les plus grosses levées de fonds avant d'être rachetée par le géant des biotechnologies qui s'appelle BioNTech, avec des modèles d'IA tout à fait comparables à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc, on a des entreprises très, très pointues. Et puis, l'IA vient bouleverser tous les secteurs d'activité. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. On a maintenant des start-up, par exemple au Kenya, qui permettent de détecter les maladies du manioc avant qu'elles ne surviennent, avec des modèles d'IA dédiés. C'est 28 000 agriculteurs au Kenya qui utilisent cette solution-là. On en a dans le domaine des mines, qui sont des ressources importantes, évidemment, vous le savez, en Afrique, qui permettent de mieux comprendre comment exploiter et comment exploiter de façon plus durable les mines en Afrique. On a des start-up finalement dans l'ensemble de ces domaines qui vont utiliser l'IA pour accélérer la transformation digitale du continent.
Jérôme, en une poignée de secondes, vous le disiez tout à l'heure, l'accès à la data dans certains villages reculés est compliqué. Comment on fait pour y remédier ? Est-ce que le gouvernement aide justement à établir cette liaison avec le dernier kilomètre ? Comment ça se passe ?
Ah, c'est une préoccupation commune des acteurs privés et des gouvernements dans les pays. Nous, on a un programme emblématique qui s'appelle les Orange Digital Center, où on forme et on a formé en 2023 1 million de bénéficiaires, principalement au codage, et puis on accompagne les startups. On a accompagné 228 startups dans nos ODC, des phases d'incubation jusqu'au financement. Et il faut ne pas se concentrer uniquement dans les grandes villes. On en a 16 dans des grandes capitales africaines, mais on en a 22 en zone rurale. On appelle ça les ODC clubs. Et ça, on le fait en partenariat avec plus de 200 universités en Afrique. C'est très important parce que, on le disait tout à l'heure, cette fracture numérique, elle existe peut-être encore plus en Afrique qu'en Europe. Il faut pouvoir y remédier en mettant les moyens, nous, acteurs privés, aux côtés des pouvoirs publics. C'est aussi la question de l'inclusion des femmes derrière ça. Hein. Et on s'enorgueillit d'avoir une discrimination positive dans nos Orange Digital Center, parce qu'on a eu 51% de femmes bénéficiaires de ces formations gratuites et de cet accompagnement en 2023.
Merci beaucoup Jérôme Hénic, directeur général de Orange Afrique Moyen-Orient. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve pour vous faire rentrer dans la magie des festivals mêlant tradition et modernité numérique. Vous découvrirez aussi une toute jeune start-up malgache qui permet de se former et de gagner de l'argent grâce au numérique. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. La semaine prochaine avec Sud Radio, gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France, dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 8h30 et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences Lagrange Vacances.
Tout savoir sur le bien-être féminin avec Manae. Margot Blin, vous êtes pharmacienne responsable de l'innovation chez Manae et vous nous parlez aujourd'hui d'un produit de nouvelle génération pour la jeunesse de la peau.
Oui, parce qu'à partir de 24 ans, les femmes commencent à se soucier de leurs rides. Donc on a développé Manae Collagène Expert, un complément alimentaire qui associe collagène, acide hyaluronique et élastine.
Et quels sont les bienfaits de Manae Collagène Expert ?
Eh bien, les études cliniques ont démontré une action anti-rides complète et une augmentation de 66% sur la fermeté de la peau. On obtient aussi élasticité et hydratation et la peau est repulpée.
Alors, où trouve-t-on Manae ?
En pharmacie et parapharmacie. Et plus d'infos sur vitavea.com.
Ces produits sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio.
Hé, hey, regarde, la voisine est déjà prête.
Ah ouais ? Mais prête pour quoi ?
Ben, pour les fortes chaleurs.
Elle a acheté un maillot ?
Non, elle a installé des stores.
Ah, bonne idée ! Il faudrait qu'on en mette aussi devant nos fenêtres.
Eh oui, les fortes chaleurs vont arriver plus tôt et durer plus longtemps. Alors pour vous protéger, préparez-vous dès maintenant, en installant des stores par exemple. Découvrez plus de gestes simples sur vivreavecleschaleurs.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
17h56. 17h58. L'enfer, le périph.
18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Chez Ixina, votre cuisine est conçue sur mesure. En plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Et en plus, elle est garantie 10 ans. Ah oui, et en plus, en ce moment, c'est TVA offerte.
Ixina, oui à vos rêves.
Voir conditions sur ixina.fr.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et dans ce numéro spécial Afrique et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Il est expert des musiques et des industries culturelles de la diaspora africaine depuis 20 ans. Il initie et dirige de nombreux projets en France et dans plusieurs pays africains. Alain Bidjek, bonjour. On est ravis de vous avoir entre vos différents et multiples voyages parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc président et fondateur du Moka. Expliquez-nous cette belle aventure du Moka, en quoi ça consiste
hein. Bah écoutez, le Moka est né de mes 20 ans d'expérience dans les industries culturelles et créatives. Donc on a lancé le Moka il y a 8 ans. C'est une plateforme d'innovation dédiée aux industries culturelles et créatives avec une particularité, c'est l'écosystème Afrique et diaspora.
Donc depuis 2016 effectivement, et vous faites donc la promotion de la créativité et de l'entrepreneuriat culturel, et vous favorisez justement l'accès à l'emploi aux métiers culturels. Expliquez-nous qui ça concerne et comment on peut y adhérer.
Bah déjà, à travers le Moka, en fait, c'est un réseau d'artistes, d'entrepreneurs de la culture, d'organisations professionnelles et d'institutions qui organisent un peu le métier en termes de législation. Et puis, en fait, en travaillant avec tout cet écosystème, finalement, on a identifié depuis une dizaine d'années les besoins des acteurs, parce qu'on est quand même dans un secteur qui monte, qui explose, parce que les industries culturelles en France, c'est 4% du PIB, en Afrique, c'est 1% et quelques, ça représente à peu près 50 millions d'emplois dans le monde. 2 millions, 3 millions d'emplois en Afrique. Donc c'est un secteur qui est en train de monter. Pourquoi ? D'autant que aujourd'hui, grâce au numérique, comme on en parle aujourd'hui, grâce au numérique, en fait, la musique se diffuse depuis le continent vers le monde entier. Le cinéma se diffuse dans le monde entier. Donc on voit le succès de Nollywood, on voit le succès de l'afrobeat, de
Nollywood, la Nollywood, c'est le Hollywood du Nigeria,
exactement.
En fait.
Exactement. Hein. Nollywood, c'est le, je dirais,
le troisième pays producteur de films.
Exactement.
C'est bien ça.
C'est le troisième cinéma en termes de production de films dans le monde. C'est plus de 2500 films par an. C'est plus de 600 millions de revenus en 2021. Enfin, c'est énorme. C'est quasiment 1 million d'emplois. Enfin, on n'imagine pas à quel point ce mouvement, en fait, porté par des producteurs indépendants est devenu quelque chose de phénoménal. Et donc il y a un vrai enjeu d'emploi, et c'est dans ce sens-là que nous aussi, et à travers le Moka, on a commencé à regarder finalement cette jeunesse qui est africaine, qui est là, qui représente 60% de la population. On a regardé, on s'est dit mais en fait il faut faire quelque chose. Ils adorent la culture, ils adorent la musique, le cinéma, les jeux vidéo, la réalité virtuelle aujourd'hui. Ben en fait il faut proposer des outils pour leur permettre de rentrer dans ces métiers.
Donc le Moka c'est un festival ambulant, on va dire, et vous permettez à des jeunes de venir et de se former avec un dispositif très particulier, justement, qui va permettre de se former en réalité virtuelle.
Aussi, oui. Bah, en fait, le Moka, effectivement, est né à Paris et aujourd'hui circule dans l'ensemble des différentes capitales africaines.
Lesquelles et, faites-nous un peu
aujourd'hui,
voyager.
Aujourd'hui, on a fait Kigali, on est au Rwanda il y a 2 ans, on revient tout juste de Rabat l'année dernière, donc au Maroc, et puis là, cette année, on fait une entorse, on va à Londres, et puis on revient à Kinshasa en 2025. Ouais. Et donc, à travers le Moka, finalement, c'est leur permettre déjà de rencontrer des professionnels, d'écouter, de partager des expériences avec des rôles modèles, et puis bien entendu, autour du Moka, on a construit un laboratoire de création qui mêle créativité, danse, musique, art visuel entre des créateurs internationaux de la diaspora et aussi du continent. Donc finalement, on essaie d'emmener aussi des nouvelles écritures à travers cet outil-là. Et puis, du Mocha est né un enfant, on va dire, hier, l'année dernière, donc qui s'appelle Immersio, qui est une application de réalité virtuelle qui justement permet aux jeunes non pas simplement de contempler les professionnels qui parlent, mais de découvrir ces métiers et puis d'aller plus loin et de les former par la suite à l'issue du Mocha.
Donc vous identifiez une quarantaine de jeunes dans chacun des pays. Tout et donc fait. Là ils vont avoir accès à un cursus en fait tout grâce à, enfin où vous utilisez Immersio, ce système de réalité augmentée, et ce cursus oui. leur donne une formation, enfin leur donne à la...
En fait, comment ça se passe? Effectivement, on identifie... on travaille avec aussi bien les établissements scolaires que les festivals. En tout cas, en Afrique, on travaille beaucoup avec les festivals puisqu'ils agrègent des réseaux de créateurs. Et généralement, on fait des sessions entre 20 et 40 personnes. Donc, on a deux formules. Il y a pour ceux qui veulent découvrir les métiers, ça, c'est des formations courtes, ça dure quelques heures. Mais pour ceux qui veulent véritablement rentrer dans un métier, que ce soit les métiers du son, de la lumière, les métiers techniques, généralement, du spectacle aujourd'hui, puisque ce sont les premières briques qu'on a développées, pour ces métiers-là, on peut aller sur des cursus de 15 jours. Donc après, je dirais sur la version plus augmentée, ça peut aller jusqu'à 6 mois parce qu'on intègre à ça une formation professionnelle avec un stage. Donc ce qui permet aux jeunes qui a découvert Immersio, qui se fait accompagner en formation avec des experts et qui va maintenant, à travers notre module, rentrer dans un stage à côté d'un professionnel qui devient son mentor par la même.
Très bien. Alors vous intervenez également en France. Hein. Comment on peut adhérer à vos formations et qui
aujourd'hui,
est éligible?
En France c'est très particulier parce qu'en fait sur la France, comme tout est très bien organisé, on travaille avec les collèges, on travaille avec les lycées, on travaille avec les universités, on travaille avec les missions locales. Donc c'est très 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 structuré de ce côté-là. On n'a pas besoin de beaucoup d'aller chercher le public. Généralement, les missions locales nous contactent. Eux, pour le coup, ont des jeunes qui ont décroché, qui savent plus où aller.
Et finalement, africains ou non, enfin tout.
Pour le coup, d'accord. En France, voilà, il n'y a pas de limite.
D'accord.
En Afrique, parce qu'il y a des enjeux de formation,
bien
mais
sûr.
En France, finalement, il y a un enjeu parce que la jeunesse, en fait, malgré toutes les propositions, en fait, ils sont perdus, ils savent pas où aller. Et à travers une expérience de réalité virtuelle. On leur permet de dire, tiens, ils ont une passion, ils aiment l'art, ils aiment la culture, le spectacle, il y a des métiers. Et nous, en France, on leur dit, écoutez, vous aimez la musique, mais derrière l'artiste que vous voyez, il y a une centaine de métiers. Donc à travers Immersio, déjà, vous allez en découvrir une partie, on va vous faire découvrir, on va vous permettre d'aller plus loin en faisant un stage, parce qu'on travaille avec les syndicats des industries culturelles, les syndicats du spectacle. Donc, on a établi un partenariat avec eux. Donc, dès qu'on a des jeunes qui sont intéressés dans les missions locales, dans les collèges, on leur permet de faire des stages dans des festivals, dans des salles de spectacle, ou encore dans des boîtes de production de spectacle.
Alain, juste pour conclure et pour nous faire voyager, ouais. Donnez-nous un ou deux exemples d'imagerie culturelle, en fait, qui ouais. utilise le numérique et qui innove.
En fait, il y a deux exemples. J'en ai un en Tunisie, donc avec un partenaire qui s'appelle Netinfo, ils ont créé un métaverse avec un musée virtuel pour faire revivre les mythologies, non seulement les mythologies, mais aussi les histoires fortes africaines qu'ils ont retranscrites dans un espace de métaverse. Donc ça, c'est en Tunisie. Ils sont très très bons sur le digital, sur tout ce qui est animation 3D et tout ça. Et puis, il y a une autre innovation au Cameroun, donc c'est Kiro Games. Kiro Games, ils utilisent les mythologies africaines, pour le coup, les traditions, les histoires anciennes qui revitalisent dans les jeux vidéo. Donc, ils font des jeux mobiles, ils font des jeux sur portable, sur ordinateur, donc ce qui permet de faire revivre des histoires et d'utiliser ça et de faire rêver les jeunes. Et puis une troisième à Abidjan, donc ça c'est Bantou, c'est une start-up qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps et par un entrepreneur qui est assez incroyable. Il a créé un système de paiement qui permet justement aux acteurs de la culture d'avoir leurs propres moyens de paiement et finalement à travers un dispositif de détection de talent, il permet au public d'investir sur la production des œuvres des artistes sélectionnés et en fait en utilisant la carte de paiement, finalement cette carte devient le moyen de paiement également des créateurs aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent en Afrique. Je vous parle même pas de la réalité virtuelle aujourd'hui, de la réalité augmentée en Kenya. Enfin bon, il y a de belles histoires, comme disait Jérôme tout à l'heure. Mais en fait, il faut s'arrêter. Il faut rentrer en relation, rentrer en discussion avec ces jeunes. Parce qu'on parle de la jeunesse africaine souvent dans des termes assez difficiles. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute cette capacité d'innovation, toute cette fertilité. Et je pense que véritablement, ils sont en train de changer le monde et ils vont changer le monde.
Merci beaucoup Alain. Et c'était l'objectif aujourd'hui avec votre éclairage, de découvrir ce que l'on ne connaît pas forcément ou sur ce sur quoi on n'a pas forcément une idée, qui est le reflet de la réalité. Merci Alain. Et pour terminer cette émission, une toute jeune start-up dédiée à l'apprentissage et à l'accès au travail numérique. Elle a été créée à Madagascar et elle est en train de s'ouvrir au monde entier. Et elle permet notamment de dénicher de jeunes talents qui sont issus des milieux défavorisés, mais aussi de répondre aux besoins de grandes entreprises en manque de codeurs. Elle est représentée aujourd'hui par Adam Yassine, qui est le directeur des opérations de la société Saina. Adam, j'ai presque pitché toute la société, mais j'aimerais quasiment l'entendre avec vos propres mots. Saina, qu'est-ce que vous permettez de faire?
Alors on est sur trois volets. Saina Learn pour apprendre les compétences numériques, Saina Work pour travailler sur ses ces fameuses compétences numériques, et Sign Up pour pouvoir se réunir dans des espaces physiques connectés.
Donc elle s'adresse à de jeunes Africains ou vous êtes...
En effet, on a été créé à Madagascar, on s'adresse à des jeunes Africains qui sont en manque de compétences, d'une part, et qui ont envie de travailler sur ces compétences numériques, d'autre part. Donc on facilite l'accès au marché international via notre plateforme.
Donc en fait, vous avez un double enjeu, vous formez. Donc quiconque veut aller sur votre plateforme et s'auto-former, vous allez nous expliquer, peut le faire. Et après, vous allez leur permettre de trouver un travail.
Exactement, c'est le rêve de réunir l'école et le travail dans une seule et unique entité. Donc c'est super, on est content.
Donc expliquez-nous comment cette histoire a commencé, parce que l'histoire est un peu magique, on va dire.
Alors on a la chance d'avoir une entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise qui s'appelle Matina Razafi Maefa, qui est une entrepreneur de dingue, on essaie de la suivre. Elle a commencé dans une mezzanine avec 12 personnes, et avec ce succès-là, maintenant on est digitalisé, donc ça nous a permis d'aller conquérir l'Afrique.
Donc les jeunes Africains vont sur votre plateforme, après comment ça se passe? Ils sont pris en charge, ils ont un prof, ils regardent des tutos, ça se passe comment?
Ça se passe en trois étapes clés, tout simplement d'abord l'acculturation digitale, on apprend comment Internet fonctionne, comment un ordinateur fonctionne, comment on navigue en toute sécurité. Après on fait ce qu'on appelle le tronc commun, donc Discovery 101, pour apprendre les fondamentaux du numérique, HTML, CSS, JavaScript, un peu de nom compliqué. Et à partir de là, on choisit une spécialisation.
D'accord. Et ça se passe en combien de temps pour être formé?
C'est un abonnement à 9,90€ par mois. Et grâce à Orange, on a réussi à vendre la formation à l'heure à 0,60 centimes de l'heure. Et ça, on peut le faire quand on veut, où on veut, parce que évidemment, il y a des mamans qui sont sur la plateforme, il y a des personnes qui ont des situations difficiles, qui doivent ils doivent manager à la fois l'école et à la fois la vie dans le champ, par exemple, ou pour aider la famille.
Adam, ça m'interpelle et ça me pose une double question. Déjà, comme Jérôme l'exprimait, il n'y a pas forcément du réseau partout. Donc, quand on attaque une formation, on n'est pas assujetti à une coupure de réseau.
Exactement. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les Sign Hub. C'est des espaces physiques connectés où la communauté peut se rejoindre.
Ok. Et alors la deuxième chose, c'est le prix, parce que le pouvoir d'achat est quand même inférieur. Est-ce que tout le monde peut s'offrir une formation?
On a la chance d'être la formation la plus accessible du marché aujourd'hui. Et grâce à Orange, on est devenu encore plus accessible.
D'accord. Je posais la question à Jérôme tout à l'heure. L'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de se former et surtout de coder, est-ce que c'est un frein par rapport à vos étudiants que vous êtes en train de former? Parce que demain, on nous dit que l'intelligence artificielle permettra de faire un prompt et d'avoir effectivement sa ligne de code écrite automatiquement. Comment vous vivez cette rupture technologique, hein?
Aujourd'hui, les partenaires avec lesquels on travaille nous demandent qu'il y ait ce qu'on appelle « human in the room ». Il faut qu'il y ait un être humain opérateur malgré toutes les intelligences artificielles. Nous, en interne, on est 15, on opère sur 14 pays et on utilise l'intelligence artificielle partout. Également, nos étudiants ont accès à l'intelligence artificielle, d'une part pour l'aspect didactique et d'autre part pour l'aspect productif.
Pour conclure, vous nous dites qu'on peut gagner de l'argent avec Saïna. Quel type de revenus, à combien s'évalue un petit peu le montant que l'on peut prétendre gagner?
Alors sur un revenu, un SMIC malgache qui est environ à $75, nous on est aux alentours de 300 et ça peut monter jusqu'à 1500 en moyenne. Aujourd'hui, je vais vous raconter quand même une histoire qui manifeste ça. C'est l'histoire de Pat. Elle était étudiante. Elle a créé un Sign Up pour accueillir les étudiants de son quartier et elle leur a vendu des prestations de services. Donc elle a compris tout le modèle. En fait, elle utilise la structure Sign Up pour pouvoir grandir.
Merci beaucoup Adam Yacine. Le mot de la fin, Jérôme Hénique. À travers les interventions que nous venons d'écouter, on voit qu'il faut vraiment changer notre paradigme de réflexion et de regard sur l'Afrique. Il y a de très très belles choses. On ne le sait pas assez. Quel est votre constat?
Oui, la scène tech africaine est bouillonnante. Les investisseurs ne s'y trompent pas et on a des entrepreneurs de talent dans tous les pays en Afrique qui font bouger l'Afrique et qui sont en train d'accompagner la transformation numérique du continent.
Jérôme Hénique, merci beaucoup et je rappelle le titre de votre livre African Digital Champion 2023. Vous y découvrirez de magnifiques histoires d'entrepreneurs africains. Alain Bidjek pour le Moka et Adam Yacine pour Saïna. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8.
Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je pourrais vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence.
Sud Radio, parlons vrai.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Montpellier.
104.7.
Sud Radio.
Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon fromage et glace, comme la feta grecque AOP Carrefour Extra qui passe de 2,89€ à 2,45€, soit 15% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Barquette de 200 grammes, prix baissé à compter du 6 mai 2024 par rapport au prix permanent des produits, détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi. Et en plus, il ne veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après, il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude ? Sur un long trajet, une pause toutes les deux heures.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font chut.
Mais pas trop quand même.
À bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins.